Une émission réalisée en partenariat avec Orbis Géopolitique, intelligence économique, veille, communication d'influence. Orbis mobilise un large spectre d'experts pour mettre la géopolitique au service de votre entreprise. Retrouvez tous nos services sur orbis-géopolitique.fr.
Bienvenue pour une nouvelle émission de Conflit, ravi de vous retrouver. Je vous rappelle que vous pouvez également retrouver Conflit en kiosque. Notre dossier de numéro actuel est consacré au terrorisme. Vous pouvez le retrouver en kiosque et sur notre site internet. Et puis en vous abonnant, en parlant de Conflit à vos amis et en permettant à vos amis de s'abonner, vous nous permettez de développer Conflit, de vous proposer du contenu en accès libre, comme ces podcasts, avec une émission par semaine. Et donc pour vous abonner, vous pouvez notamment vous rendre sur le site internet de Conflit, revueconflit.com, où vous pouvez également retrouver les anciens numéros. Alors nous allons parler cette semaine d'une personne à la fois très connue et en même temps très peu connue, notamment en France. Il s'agit du prince de Galles, Charles, qui est appelé à succéder au trône et donc qui sera, sauf exception ou sauf imprévu, qui sera roi d'Angleterre. Et ce prince de Galles est à la fois une figure familière, on a l'habitude de le voir, et en même temps une attitude un peu secrète, une vie un peu secrète qui peut parfois échapper et qui fait que cette personne est finalement assez peu connue. Nous allons donc essayer de percer la personnalité, la particularité de Charles d'Angleterre et d'essayer de comprendre qui se cache derrière lui avec notre invité cette semaine, Michel Faure. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté l'invitation de Conflit. Les auditeurs peuvent également vous retrouver dans le magazine où vous réalisez des portraits. On avait également fait une ancienne émission consacrée à Pinochet. Donc là, c'est votre deuxième biographie puisque cette fois-ci, on a quitté l'Amérique latine et le Chili pour aborder l'Angleterre. La photo que vous avez choisie en couverture de l'ouvrage est, je trouve, assez symptomatique du personnage. C'est-à-dire qu'on a à la fois quelqu'un qui est très formel. On le voit là en grande tenue avec ses médailles et en même temps assis sur un fauteuil avec une pose un petit peu nonchalante. C'est assez un bon résumé du personnage. On le voit toujours effectivement très formel, et c'est aussi le futur roi, mais avec un côté, comme vous le décrivez, un petit peu contrasté, abordant des sujets sur lesquels on ne l'attend pas forcément.
Absolument, c'est un personnage assez complexe. Et il est, à cet égard, particulièrement intéressant de l'étudier, parce que c'est effectivement, comme vous le dites, il a une image publique. Et il a aussi, bien sûr, un parcours, des idées, qu'il n'hésite pas d'ailleurs à affirmer avec beaucoup d'assurance, qui sont parfois contestées. Mais enfin, il a un corps de pensée bien structuré autour, au fond, d'un noyau dur qui est son idée de l'harmonie et qui pose des problèmes aux rationalistes que nous sommes en France, mais qui est assez accepté finalement dans une société, je dirais peut-être plus sentimentale, qui est le Royaume-Uni.
C'est quelqu'un dont on a l'impression qu'il s'est bonifié avec le temps. Quand il était jeune, il y avait l'ombre de sa mère, après il y a eu Diana. Il a beaucoup souffert de la comparaison avec Diana et puis le décès brutal de celle-ci. On a l'impression que depuis une dizaine d'années, il revient un petit peu en grâce, on le redécouvre. Est-ce que c'est aussi le cas en Angleterre ?
Je crois, et c'est-à-dire qu'il y a une réhabilitation à laquelle il a travaillé d'ailleurs activement après la mort de Diana. Ça, c'est un, comment dirais-je, c'est un personnage qui a une longue vie maintenant. Hein. Il a 73 ans, je crois maintenant, et il a toujours été à part des autres. Même il en a souffert quand il était enfant, parce qu'il a été dans des écoles très chic, mais néanmoins, il était le fils de la reine. Et quoi qu'on fasse, on n'est pas exactement comme les autres enfants quand on est considéré comme un futur roi par des gamins qui du coup, gardent une distance avec vous, ou au contraire, vous font des croche-pieds avec plaisir. Et donc, il a eu une enfance assez malheureuse, et il a une vieillesse qui semble effectivement beaucoup plus harmonieuse et beaucoup plus sereine. Et je crois que tout ça, c'est une histoire d'amour qui a été contrariée, mais qui a été constante. Et c'est d'ailleurs une raison, à mon avis, qui fait que les Anglais ont repris une certaine sympathie avec un personnage qui était détesté après la mort de Diana. Ils ont retrouvé une sympathie pour lui parce qu'ils ont découvert sa constance et une certaine dignité finalement et une constance dans l'amour.
Vous évoquez l'harmonie, c'est quelqu'un qui est très attentif, attaché aux questions écologiques, il a développé un domaine, il a un souci de la protection de l'environnement, il est très attaché à l'homéopathie aussi. Est-ce que c'est uniquement un hobby ou une lubie, ou est-ce que ça correspond à un élément de sa pensée profonde et même de sa conception politique?
Je crois que ça correspond à sa conception de l'univers, c'est-à-dire qu'il a un jour, il a finalement... décidé avec peut-être en fin d'adolescence, en cherchant un peu le personnage qu'il devait être, quelle était sa personnalité. Il s'est formé avec l'aide d'un, je dirais un gourou, mais un gourou bienveillant, quelqu'un qui n'était pas vraiment autoritaire, mais qui était Van der Post, qui était un Sud-Africain, qui l'a amené dans un désert en Afrique, qui lui a expliqué... l'harmonie de la nature. Et depuis ce moment, il a commencé à regarder de près, effectivement, ce qui rendait les choses belles, comment l'harmonie, le nombre d'or. Et il dit retrouver dans un livre qu'il a écrit sur l'harmonie, il retrouve ça dans la musique, dans les feuilles des arbres, dans les fleurs, dans l'équilibre d'un jardin ou son déséquilibre d'ailleurs. Et donc il a commencé par ce concept d'harmonie. Et à partir du moment où il a trouvé ce concept, il a construit un petit peu tout autour un certain nombre d'idées, un corpus en quelque sorte de ses pensées. Qui tourne autour de l'harmonie, aussi bien de façon sociale, avec ses nombreuses actions caritatives, mais aussi au niveau médical, architectural, urbanistique. Et donc, il y a une cohérence dans une pensée qui n'est pas très rationnelle, qui est plus sentimentale. Il parle de l'intelligence du cœur, plutôt que de l'intelligence de la tête. En quelque sorte. Et donc, c'est une pensée sentimentale et c'est une pensée cohérente qui est parfois un peu décalée et qui est parfois tout à fait en avance sur certains points. Décalée sur la médecine, par exemple. Il a été un peu maladroit pour avancer ses idées sur les médecines douces, où il a expliqué un peu aux médecins comment faire leur métier, ce qui leur a bien sûr déplu. Il a été un peu maladroit avec les architectes, mais là, peut-être avec plus de raison cette fois-ci, parce que les architectes avaient créé quelques désastres urbanistiques dans les villes anglaises dans les années 70. Mais voilà, c'est tout ça relève quand même de cette idée d'harmonie.
Il a lui-même contribué à la création d'une ville nouvelle.
Oui, Pondéry, il y en a deux d'ailleurs, il y en a une autre aussi dans les Cornouailles. Mais enfin, Pondéry, j'y suis allé. Comment dirais-je, c'est une espèce de parlis de Tudor, quoi. C'est une fausse ville ancienne avec un certain autoritarisme sur les couleurs des maisons, leur on ne doit pas y toucher. Enfin, il y a les propriétaires qui achètent des petites maisons ou des appartements n'ont pas beaucoup de liberté pour... Il y a des règles très, très strictes. Et donc, ça... Comment dirais-je, ça fait toc, un peu. Hein. Ça fait toc, mais peut-être qu'avec le temps, ça va se patiner de façon plus agréable. Mais pour l'instant, on voit une ville un peu de... où il n'y a pas beaucoup de jeunes. On croise beaucoup de personnes âgées qui sont là dans une ville qui est à côté d'une ville qui est très sympa, qui s'appelle Dorchester, et qui elle est une vraie ville, quoi. Mais là, on est dans une espèce de banlieue chic, un peu vide, avec il y a quelques rues commerçantes. Mais comment dirais-je, un Français probablement n'aurait pas très envie d'y habiter.
Il sera appelé, sauf s'il décède avant Elisabeth II, mais il sera appelé à être roi d'Angleterre. En attendant, il est prince de Galles. C'est pas uniquement un titre honorifique, il s'est aussi intéressé au pays de Galles, et notamment dans les années 1970, où il y avait un mouvement autonomiste, voire indépendantiste. Aujourd'hui, on a quitté ça, on a un problème actuellement de l'Écosse, mais il a aussi eu un rôle politique à ce moment-là, face à cette question galloise qui est arrivée sur la scène politique.
Alors oui, et ça montre quand même le sérieux de Charles. Parce qu'il prend les choses au sérieux. C'est pas un amateur. Quand il rentre dans quelque chose, il va jusqu'au bout. Et alors, au fond, quand il est couronné prince de Galles par sa mère, je crois qu'il a 20 ans à cette époque. Et effectivement, on peut craindre une bombe sur le carrosse, hein, où il y a un défilé dans la ville, etc. Et il y a eu des menaces d'un groupe armé de républicains révolutionnaires gallois qui a posé quelques bombes dans certains coins du pays et qui menaçaient de faire sauter les rails du train royal qui arrivait avec le prince, sa mère et toute sa famille pour se faire couronner au Pays de Galles. Et finalement, quand il arrive au Pays de Galles, durant son couronnement, c'est un grand succès, les gens sont très contents de le voir, et il est applaudi par la foule, etc. Il est très bien reçu. Et ça le touche parce qu'il avait un peu peur de l'accueil qui lui serait réservé dans le contexte politique de cette armée républicaine. Secrète, là, mais ce groupe un peu terroriste, hein, mais bon, qui n'a pas fait non plus de grands dégâts. Et il décide, à la fin de son couronnement, de rester une semaine et d'aller faire un tour dans le Pays de Galles. Et c'est cette décision qui va être ensuite suivie des faits tous les ans. Il y aura toujours une semaine au Pays de Galles chaque année. Est une espèce de promesse de s'occuper du Pays de Galles dont il est le prince. Au contraire de ses prédécesseurs qui ont pris le titre mais qui ne se sont pas vraiment attachés au Pays de Galles. Et ça a touché pas mal les gens parce que d'abord il a été à l'université au Pays de Galles pour apprendre la langue. Alors il n'est pas resté très longtemps, il est resté une année je crois. Et la langue galloise, franchement, il faut même la lire, n'est pas évident. C'est plein de consonnes et très peu de voyelles. Et c'est une langue, a priori, très compliquée. Mais alors, il a appris à faire au moins un petit speech, un petit discours. Il s'en est pas mal tiré à la fin de son séjour. Et après, il est revenu tous les ans. Il y a, je crois, c'est début juillet, une semaine, le World's Week. Et il y va. Et bien sûr, il est ce qu'il a. C'est-à-dire, quand il va voir tout ce qui relève du traditionnel, de l'artisanat, de la façon de faire de l'agriculture raisonnée, etc. Donc, il passe à côté d'une chose qui est à la fois le déclin industriel très grave du Pays de Galles, mais aussi son rebond sur les nouvelles technologies et ça, le futur du Pays de Galles est plutôt dynamique. Même si c'est un pays qui a beaucoup souffert de la fin des mines et de la fin d'une industrie ancienne. Et ça, Charles, il zappe complètement cet aspect du Pays de Galles pour aller voir ce qu'il aime, finalement, des artisans qui font des jolies choses, des bûcherons qui travaillent avec des chevaux pour... des choses comme ça, quoi. Ou des vieux poètes qui sont dans un petit village, enfin des choses très traditionnalistes.
Est-ce que cette question du Pays de Galles renvoie aussi aux difficultés du Royaume-Uni? On a actuellement l'Écosse avec un mouvement indépendantiste, il y a eu l'Irlande du Nord et des combats très durs avec des attentats. D'ailleurs, un proche de Charles, Lord Mountbatten, a été assassiné par l'IRA. On voit que c'est un pays qui n'est pas du tout tranquille. On voit la monarchie, la reine, les fastes, enfin, c'est quelque chose d'immuable, mais c'est un pays qui a énormément souffert en interne, enfin, souffert dans sa cohésion, dans son unité au cours du XXe siècle.
Oui, mais en même temps, c'est un peu de sa faute parce qu'il a annexé assez violemment l'Irlande et il a... comment dirais-je, il a... il y a des peuples qui ne parlent pas la même langue, comme par exemple le Pays de Galles, l'Écosse est un peu un cas à part, mais comment dirais-je, là, c'est devenu un royaume un petit peu fragile et dont la désunion n'est pas impossible, mais c'est aussi un pays où les Irlandais sont très nombreux, par exemple à Londres. C'est un pays très intercommunautaire en fait, et donc je ne suis pas. On a vu d'ailleurs le dernier référendum des Écossais. Ils ont voté avec une majorité pas très forte, mais avec une majorité quand même pour rester dans le royaume. On verra après le Brexit, bien sûr, la donne est différente. Avec les élections qui viennent de se passer en Écosse, on peut penser que, effectivement, il peut y avoir maintenant une majorité qui voterait pour un référendum. Reste que ce référendum reste sous le contrôle, pour l'instant, de Boris Johnson, qui n'est pas prêt à les autoriser à faire un référendum. Et moi, je note une chose d'ailleurs assez intéressante, c'est combien il y a une certaine sympathie pour l'indépendance écossaise en Europe et une antipathie pour l'indépendance catalane, par exemple. Alors, c'est à peu près les mêmes histoires, fondamentalement. C'est un peuple historique qui, tout d'un coup, trouve qu'il n'a plus les mêmes intérêts que le pays auquel il est rattaché. Et bon, je pense que on verra ce qui va se passer, parce que je pense que le Brexit a été un peu un traumatisme, mais pour ce que j'en ai vu au cours des derniers mois où j'étais à Londres, finalement c'est un peu oublié. Hein, on parle d'autre chose, peut-être la Covid a un peu effacé le trauma, et puis finalement l'économie n'est pas sur les genoux, les supermarchés sont bien remplis, les produits frais, on peut acheter toujours du camembert et de la moutarde de Dijon sans trop de problèmes, donc finalement, le produit italien, enfin bref, rien apparemment n'a vraiment beaucoup changé. Sinon, bien sûr qu'il y a quelques taxes qui n'étaient pas imposées autrefois. Mais par ailleurs, je ne pense pas que l'autonomie écossaise soit facile, en matière d'économie. Parce que l'économie écossaise, c'est pas grand chose, hein. C'est pas un pays très, très industrialisé. C'est très agricole. Et à part le whisky, ils importent pas extraordinairement.
Whisky, le gaz de la mer du Nord, mais.
Oui, alors si. Oui, effectivement. Mais en tout cas, c'est un royaume qui reste pour l'instant uni, et je pense que la monarchie joue un rôle, encore pour le moment, parce que les sondages montrent que la jeunesse s'en moque un peu, mais les très jeunes, hein, 18-25 ans, bon, ça les dérange pas particulièrement, mais ils se feraient très bien à l'idée que la monarchie n'existe plus. Mais c'est une minorité pour l'instant.
Charles a aussi une passion pour l'Écosse, où là il retrouve ce qu'il aime, c'est-à-dire les paysages, le rapport à la nature. Il est souvent, enfin, on le voit en kilt, et, enfin, il est peut-être même plus écossais parfois qu'anglais.
Alors, c'est une tradition familiale qui remonte à sa grand-mère, qui a été une de l'aristocratie écossaise, et qui a acheté. Non, c'est même plus que sa grand-mère, parce que ça commence avec Victoria qui a acheté Balmoral, avec Albert. Et la mère d'Elisabeth, celle qu'on a longtemps appelée la reine-mère de son vivant, venait de la noblesse écossaise. Balmoral était là, qui est la résidence d'été de la famille. Et il y a une espèce de festival à la fin du mois d'août, je crois, où bien sûr la reine, tous les ans, va accompagnée des hommes de la cour, son mari, son fils, tout le monde est en kilt, et en grand uniforme local. Et Et ça, c'est à la fois, comment dirais-je, un héritage pour Charles de sa mère qui aime beaucoup également l'Écosse, de sa grand-mère, et c'est en même temps effectivement un plaisir esthétique devant les paysages très très sauvages, très beaux d'ailleurs de l'Écosse. Et vous savez que c'est un amateur de l'aquarelle. Il avait peint de nombreuses aquarelles sur les paysages d'Écosse, avec un certain talent. Hein, c'est tout à fait honorable. Philippe était un très bon peintre de l'huile, de la peinture à l'huile, avec beaucoup de talent aussi. Et donc, il aime beaucoup l'Écosse pour ça, je crois. Puis il aime bien le whisky également. Il ne néglige pas un verre de Lafroy, par exemple, avant d'aller dîner.
Est-ce qu'on connaît sa vision politique et quand il sera sur le trône, s'il a un projet politique pour cette monarchie parlementaire? Le roi a un pouvoir, il a un rôle. Est-ce qu'on sait comment Charles conçoit son futur rôle de roi et ce qu'il mettra en place, ce qu'il fera le jour où il sera appelé à régner?
Je crois qu'il sera, il sera un petit peu plus, ouvert et disert comme roi que l'a été sa mère. Et je pense néanmoins qu'il restera très fidèle aux traditions. C'est pas vraiment un moderne. Il a eu quelques institutions avant tout le monde, notamment sur le climat ou sur le bio, etc. Il était un pionnier un peu dans ces histoires-là. Mais c'est pas un moderne. C'est quelqu'un qui considère les traditions très respectables et qui va donc probablement rester un roi sans doute un peu moins muet que l'était sa mère quand il sera roi, et qui, dont on ne sait, enfin, à part quelques messages de bonne année et quelques messages au moment des quelques moments importants de son règne où elle a parlé aux Anglais, on ne sait pas ce qu'elle pense, on ne sait pas ce qu'elle dit, on ne sait rien de sa vie finalement. Il faut regarder l'écran pour avoir vaguement une idée à la télévision. Mais sinon, elle est extraordinairement secrète. Et donc, je pense que Charles, lui, aura pris l'habitude, pendant toutes ces années de Principat de Galles, à dire un peu ce qu'il pense sur beaucoup de choses qui, théoriquement, ne le concernent pas tout à fait. Mais après tout, comme tout est politique, il faut bien qu'il dise certaines choses qu'il juge importante, et je pense qu'il continuera à ne pas être tout à fait le roi silencieux et impénétrable que représentait sa mère.
Et d'ailleurs, il a régulièrement des conversations épistolaires avec les membres du gouvernement, avec le Premier ministre aussi.
Alors, il a eu ça du temps de Thatcher. Et on parlait de Spider, des Spider Letters, parce qu'il a une écriture très pointue, un peu qui rappelle des pattes d'araignée, un petit peu. Et il écrivait pour dire qu'il trouvait que telle ou telle politique n'était pas la bonne, qu'il aurait préféré que telle ou autre soit adoptée. Elles sont maintenant archivées et visibles, d'ailleurs, pour les chercheurs. Mais Thatcher n'a pas pris ça elle a pris ça très au sérieux et elle lui a rappelé « Sœur, c'est moi qui gouverne, ce n'est pas vous ». Et donc, après, il s'est un peu calmé avec ses interventions écrites auprès des ministres. Il n'en a pas moins toujours trouvé, il a toujours été très intéressé par les affaires internationales, les affaires du Commonwealth, les affaires sur le climat. Il a beaucoup voyagé. Et donc c'est un homme au fait des enjeux géopolitiques, des enjeux diplomatiques du Royaume-Uni. Et c'est un grand partisan, bien sûr, du Commonwealth. Et il y est assez actif. Hein. Il a passé de nombreux voyages. Il a fait de nombreux voyages dans des coins les plus reculés, avec faire des petits discours. S'emplumer ou s'habiller de façon exotique pour faire plaisir aux habitants locaux. Et le ridicule ne tue pas, et donc il a fait tout ça, et ça s'est bien passé, chaque fois, il est bien aimé.
Le Commonwealth, c'est quelque chose qui est peu connu en France, mais qui est important pour au Royaume-Uni, et lorsqu'il y a eu le Brexit, ça a été remis un peu au goût du jour, en disant, finalement, enfin, c'était la grande idée de Theresa May, on quitte Bruxelles, mais c'est pour le grand large, et le Commonwealth va nous apporter en mieux ce qu'on avait autrefois avec l'Union européenne. Qu'est-ce que Charles, comment conçoit-il le Commonwealth, et qu'est-ce qu'il voudrait en faire?
Alors, il a le sentiment que c'est effectivement un espace privilégié, où on parle l'anglais, où la reine est généralement la souveraine, même si elle ne l'est pas. Il y a une espèce de communauté de langue et de tradition, je dirais, juridique et commerciale, et une tradition d'immigration également, de nombreux pays dont les ressortissants sont en Angleterre. Et donc, c'est un espace qui est assez intime, en fait. C'est pas du tout, c'est pas l'Europe, c'est pas le marché commun, c'est pas des choses comme ça. Il y a une vision un peu, là aussi, sentimentale de ce qu'est le Commonwealth. Et, bien sûr, une vision plus pragmatique. C'est un marché. Mais c'est je me souviens plus du chiffre, il est dans le livre, mais il y a le PIB du Commonwealth. C'est pas grand chose dans le PIB mondial. C'est pas un ensemble très économique très important. Alors il y a certes des pays comme l'Australie ou la Nouvelle-Zélande qui sont peut-être plus productifs que d'autres, mais il y a beaucoup de petites îles un peu perdues, il y a beaucoup de nations un peu compliquées qui ont des problèmes politiques, hein, comme le Kenya, l'Ouganda, tout ça, c'est des pays du Commonwealth, le Ghana, tout ça. Bon. Et puis c'est quand même vu, bien sûr, comme un espace privilégié pour le commerce extérieur. Et c'est vrai quand vous êtes en Angleterre, vous trouvez des produits que vous ne trouvez pas en France, par exemple. Vous les trouvez, mais ils sont plus chers ou plus rares. D'excellents vins australiens ou néo-zélandais, par exemple. Des chardonnays absolument splendides. Des gigots d'agneaux de Nouvelle-Zélande. Des choses comme ça. Bon, c'est la consommation assez commune en Angleterre. Et c'est des produits plutôt plus rares ou plus luxueux en France. Donc il y a bien sûr un commerce qui s'établit traditionnellement. Il y a une bienveillance mutuelle entre les pays du Commonwealth. Et donc c'est un espace politique, économique, mais aussi sentimental et historique. C'est les miettes de l'Empire, en quelque sorte.
Comment est-ce que Charles a préparé son fils aîné William à lui aussi devenir roi, puisque Charles a dû d'abord se former pour être le futur roi, et ensuite il doit former les autres. D'ailleurs, on voit, il y a cette photo qui était même assez attendrissante, on voyait les quatre générations, la reine, Charles, William et George. Il a eu ce rôle, enfin, de père, certes, donc d'éduquer ses enfants, William et Harry, mais aussi de futur monarque, qui doit éduquer le futur monarque.
Oui, alors je pense que William est tout à fait rentré dans les clous des très jeune, dans cette idée de devenir un jour le roi d'Angleterre. C'est pas du tout un rebelle, il est tout à fait... Harry l'est beaucoup plus, mais il a plus de raisons de l'être. William, il a d'abord appris à être futur prince de Galles. Charles lui a expliqué comment, en gros, était financé le principat de Galles, c'est-à-dire par ce qu'on appelle le duchy, qui est le duché de Cornouailles, mais c'est un fonds financier, en fait, qui possède énormément de choses, beaucoup de terres agricoles, beaucoup de bâtiments, beaucoup de maisons ou d'appartements locatifs, etc. Et donc, ça rapporte de l'argent comme tous les fonds qui travaillent bien, et ça rapporte de l'argent, ça salarie en quelque sorte le prince. Toutes les propriétés du prince sont des propriétés du duchy, Et Charles a entrepris d'expliquer tout ça à William, il y a déjà pas mal de temps, pour que le jour où il succédera à son père comme prince de Galles, il saura à qui s'adresser quand il aura besoin d'un peu d'argent. Mais par ailleurs, William est attentif à ce qu'il sera, c'est-à-dire au final, sans doute, roi d'Angleterre, s'il vit longtemps et sans souci. Mais je pense que d'ailleurs Kate est également très, très attentive à tout ça. Ils sont tout à fait intégrés dans la machine de la firme, comme disait Philippe, qui est à la cour d'Angleterre. Et je pense pas du tout, par exemple, les gens pensent ont pensé à une époque, notamment après la mort de Diana, qu'il serait bon de sauter une génération, que Charles est vraiment nul et qu'il vaudrait mieux que William se remplace sa grand-mère en cas de décès. C'est absolument inconcevable, à mon avis. D'une part, parce que Charles ne laissera pas faire des choses comme ça s'il peut le faire. Et d'autre part, parce que les règles de succession sont essentielles pour toute monarchie. Et surtout, parce que Williams est le plus monarchiste de tous. Et il est absolument inconcevable de ne pas respecter les règles de succession. Voilà. Mais je pense que ça sera un roi relativement sympathique parce qu'il est bien aimé. Mais enfin, il faut qu'il attende son tour. Et il attendra sans doute un peu moins que Charles l'a attendu.
Le duché de Cornouailles, vous l'avez dit, est un endroit important. Alors, c'est sud-ouest de l'Angleterre. On est juste en dessous de l'Irlande. La duchesse de Cornouailles actuellement, c'est Camilla Parker Bowles, donc la deuxième épouse de Charles. Et là, vous l'expliquez notamment dans votre ouvrage, qu'il y a une dimension affective et géographique, mais aussi une dimension financière. Et les Anglais, d'ailleurs, sont très bons pour ça, pour tout ce système de système offshore qui permet de faire du commerce et des échanges avec des territoires qui ont des statuts politiques et des statuts financiers différents.
Absolument, oui, absolument. D'ailleurs, de même que Charles, en gros, est financé par ce fonds qui s'appelle The Duchy, qui est un fonds de Cornouailles, de même, la reine est financée par un fonds qui s'appelle le fonds de Lancaster, qui est encore mieux doté, d'ailleurs, que le duché de Cornouailles. Quand Charles succédera à sa mère, le fonds de William comme prince de Galles, et lui, il dépendra donc de la générosité du fonds de Lancaster. Donc il y a eu, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais au moment des Panama Papers, il y a eu quelques fuites où on a découvert qu'il y avait de l'argent, non pas royal, mais qui finance un peu quand même la couronne, qui s'est retrouvée dans des paradis fiscaux. Mais bon, les finances de la cour sont quand même assez mystérieuses. La cour des comptes anglaise n'a jamais pu auditer le duchy de Cornouailles, par exemple.
Ce qui veut dire aussi que la monarchie ne vit pas sur l'impôt, ou très peu, qu'elle ne vit pas sur l'argent de l'État du Royaume-Uni.
Alors, elle ne vit pas sur l'impôt, mais elle suscite quand même des frais publics, des dépenses publiques, pour sa protection, pour ses voyages, et pour à peu près ça, oui, c'est ça, la protection
comme
physique.
Chef d'État. Comme tout chef d'État.
Comme tout chef d'État, absolument. Mais si vous voulez, il faut voir aussi des choses qui ont été un peu abusives, quoi. Par exemple, la maison de Harry et Meghan a été refaite de fond en comble à un coût qui a été important pour les contribuables. Ça, j'ai pas bien compris pourquoi c'était les contribuables qui payaient ça. Mais enfin, ça a été le cas. De même que quand Windsor a brûlé, les réparations ont été en partie sont venus en partie des fonds publics. Donc il y a une. Alors Charles paye un impôt dit volontaire sur ses revenus annuels, qui est assez faible d'ailleurs. Enfin, il est pas, il est quand même conséquent parce que ses revenus sont conséquents, mais la proportion est assez faible. Mais enfin, c'est un impôt volontaire. Il a décidé de faire ça. La reine aussi. Quand tout d'un coup, on s'est aperçu que les couronnes de du Pays-Bas, du Danemark, de Suède étaient quand même beaucoup plus frugales que celles d'Angleterre.
Est-ce que il y a des liens justement entre ces différentes familles? Il y a des liens de cousinage. D'ailleurs, les Windsor sont d'origine allemande pour une partie. Est-ce que on n'a pas une manière de concevoir les relations internationales où ces familles régnantes pour certaines et pas pour d'autres pourraient avoir un rôle géopolitique, un rôle diplomatique au moment donné où les représentations nationales, elles, sont décrédibilisées. Je pense par exemple pendant la Première Guerre mondiale, c'était Six de Bourbon-Parme qui était intervenu pour des négociations, ça n'avait pas abouti. Des négociations de paix entre les différents belligérants, mais est-ce que c'est quelque chose qu'on pourrait avoir aujourd'hui, finalement, au-delà du rôle de représentation, avoir un rôle diplomatique?
A priori, non. Alors, il y a un rôle diplomatique, comment dirais-je, il y a le soft power de la diplomatie qui est bien, dont Charles est un artiste de cette affaire, mais maintenant, je vois mal maintenant la monarchie anglaise. C'est une monarchie purement symbolique. Elle n'a pas de pouvoir. Elle a simplement le droit d'être de conseiller, d'écouter et d'encourager. Je ne sais plus quelle était exactement la formule, mais en gros, la politique lui est interdite. Elle la suit avec attention, elle peut donner des conseils au Premier ministre. Toutes les semaines, il y a une rencontre dont on ne sait jamais rien entre le Premier ministre et la souveraine, et ce sera le cas avec Charles également. Mais la diplomatie, ça reste une affaire gouvernementale en Angleterre. Et je pense que dans les autres royaumes européens aussi, d'ailleurs. Alors, il y a des figures qui sont effectivement plus apte à représenter le pays que d'autres, mais c'est là aussi qu'on a vu Charles, par exemple, débarquer à Cuba il n'y a pas très longtemps, après une tournée dans les Caraïbes où de nombreux pays du Commonwealth existent. Il a été à Cuba à la fin de son voyage, il a rencontré le président Díaz-Canel. Et on ne sait rien de ce qui s'est dit. Et l'image et le souvenir qu'on a de cette visite, qui est un peu, à mon avis, indécente, c'est Charles et Camilla à bord d'une vieille MG des années 50, qui avait un collectionneur cubain et qui leur a prêté pour la photo. Et donc on a cette photo totalement décalée par rapport à la misère et à la faim et à l'horreur qu'est la dictature cubaine, quand même. Alors, c'est pas interdit d'aller à Cuba, mais encore faut-il y aller pour quelque chose. Le roi Felipe d'Espagne a rappelé quand même un certain nombre de principes sur les droits de l'homme et sur la démocratie aux Cubains quand il est venu les voir. Là, Charles, on ne sait absolument, peut-être qu'il a fait la même chose et ça n'a pas été public. Mais j'ai toujours trouvé que c'était une drôle de façon de faire de la diplomatie que d'aller dans cette situation, dans un pays qui est quand même particulièrement compliqué à gérer pour un diplomate, de résumer cette visite qu'il y a un petit tour dans la vieille Havane au volant d'une vieille MG des années 50.
Vous avez cité le roi d'Espagne. Ce qui est intéressant dans cette monarchie anglaise, c'est qu'elle a un peu préempté l'aura monarchique. Il y a beaucoup de monarchies parlementaires en Europe. Et les autres familles n'ont pas cette aura au-delà de leurs frontières. On le voit, par exemple, quand il y a eu le mariage de Kate et de William, il y a eu davantage de Français qui ont regardé cet événement que l'intronisation du président François Hollande qui avait eu lieu une semaine avant. Il y a une sorte de monarchie mania avec la vente de mugs, la vente de goodies. Ils ont réussi à s'exporter au-delà de leurs frontières et à créer une attention autour de leur famille que n'ont pas réussi ou que peut-être n'ont pas voulu tout simplement les autres familles monarchiques d'Europe.
Alors je pense que d'abord il y a un grand nombre de moyens financier qui donne un certain pouvoir à la monarchie anglaise, qui est quand même, il y a des grands défilés, des obsèques somptueuses, des mariages extraordinaires, etc. C'est aussi une très vieille monarchie. Même si elle est d'origine germanique, effectivement, et jusqu'à tard, et que Mountbatten, c'est l'ancien Battenberg, hein, c'est une anglicisation, et que le mot des Windsor, le nom des Windsor a été choisi après la Première Guerre mondiale, parce que c'était, il y avait un anti-germanisme extraordinaire en Angleterre après la Première Guerre mondiale. Donc, c'est une monarchie qui a aussi, il faut que des racines avec Philippe, avec la Grèce, le Danemark, avec la lignée des... Charles a même retrouvé quelques racines familiales en Roumanie, par exemple, qui est un pays qu'il adore, et où il va chaque année, et où il a des maisons, donc certaines sont transformées en petites auberges et en hôtels. Donc ils ont des liens familiaux avec la Grèce, avec la Roumanie, avec bien sûr l'Allemagne, l'ancienne Autriche-Hongrie, etc. Bon, les autres monarchies sont peut-être moins planétaires en quelque sorte, mais par exemple les Espagnols, c'est des Bourbons, ils ont un lien avec la France éventuellement historique, mais il n'y a pas vraiment ces racines continentales qu'on trouve avec, bizarrement, dans une île avec la monarchie britannique.
Vous avez cité le changement de nom et on terminera notre émission par cela. Ce qui est intéressant aussi dans cette monarchie, c'est à la fois qu'elle a su conserver ses traditions et en même temps elle a un côté plastique qui lui permet de s'adapter. Alors effectivement, on change de nom, ce qui serait peut-être un problème ailleurs, mais là, du jour au lendemain, on peut angliciser son nom. Ils sont allemands, mais ils paraissent plus anglais que les anglais, complètement écossais lorsqu'ils sont en kilt et qu'ils vont à Balmoral. Enfin, il y a une capacité extrêmement plastique à changer sur ce qui est secondaire pour conserver l'essentiel.
C'est très vrai. Et en même temps, c'est, comment dirais-je, il y a chez eux, chez les Windsor, le sentiment d'être justement les bons représentants du royaume, en ayant anglicisé totalement la famille. La famille était effectivement une famille allemande, et du jour au lendemain, avec une espèce d'acceptation populaire tout à fait bizarre, parce que finalement c'est quand même un peu étrange de changer de nom aussi brutalement. Et je crois que c'est la position de la couronne pendant la Seconde Guerre mondiale, le fait que le roi et sa femme ont été très présents pendant le Blitz et ont semblé partager, et avec d'ailleurs une vraie réalité, les malheurs de Londres sous les bombes allemandes, ont aussi, comment dirais-je, solidifié un lien assez fort et assez patriotique du Royaume-Uni avec sa monarchie. L'épreuve de la guerre a été une épreuve je dirais dramatique, mais positive, pour la monarchie britannique.
Merci beaucoup, Michel Faure, d'avoir évoqué pour nous ce Charles. Je rappelle le titre de votre ouvrage, Charles, roi d'Angleterre, qui est paru à l'Archipel. Toutes les références sont à retrouver sur le site internet de Conflit, revueconflit.com, où vous pouvez également acquérir les anciens numéros et vous abonner dans la page qui est consacrée à la librairie et aux abonnements. Merci pour votre fidélité à nos émissions et je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission géopolitique.